Je sais que je suis un homme. Je le sens que je suis un homme. Je n'ai pas envie de modifier mon corps pour qu'il devienne autre chose qu'un corps d'homme. Je voudrais juste... Je voudrais signifier mon désaccord. Je n'ai pas envie d'avoir une solidarité avec un groupe qui me répugne. Tueur, violeur, violent, esclavagiste. L'histoire que tu reçois en héritage en tant qu'homme, l'histoire de ton groupe, si tu l'acceptes comme ton groupe, elle est monstrueuse.
On ne naît pas femme, on le devient, écrivait Simone de Beauvoir. Et pour les hommes, pareil. Si j'en crois ma petite expérience, c'est le spectacle de Julie Berès qui fait un carton partout en France, La Tendresse. Bonjour Julie Berès.
Bonjour.
8 mecs sur un plateau qui parlent d'eux, de leur rapport au corps, au sexe, au désir, à la virilité. Et pas beaucoup de tendresse, c'est une antiphrase ?
J'espère qu'il y en a, mais je crois que c'est une des choses qui est encore difficile pour les hommes, une autorisation à la tendresse entre eux, en tout cas, dans la tribu des hommes, et l'acceptation de leur fragilité, de leur vulnérabilité. Parce que peut-être que justement, il y a une injonction à la force, au courage, qui continue à persister, malgré le fait que les remparts du patriarcat ont largement pris l'eau. Il y a quand même des siècles, des millénaires d'archétypes, de stéréotypes qui nous ont forgés, hommes et femmes, avec cette idée que l'homme était le soldat, le sauveur de la patrie, des familles, des enfants, des femmes. Et donc cette injonction à la force, pour ne pas dire à la violence, ou en tout cas une injonction contradictoire, parce que c'est vrai qu'on dit souvent aux hommes « ne soyez pas violents, il ne faut pas se battre », et en même temps on leur dit « mais c'est normal, c'est deux petits garçons, c'est bien normal qu'ils se dopent dessus, ah ben mon fils il sait se défendre ». Et le cinéma, on le voit bien. Donc certaines de nos institutions continuent à nous donner un modèle d'homme fort et viril et courageux.
Donc il y a de la tendresse possible pour les hommes, chez les hommes. Ce n'est pas qu'une antiphrase. En tout cas, au tout début du spectacle, le mot est écrit à la craie sur les murs du décor, comme des graffitis. Mais cela reste quand même un mot, parce que très vite après, il y a une scène de guerre, par exemple.
On va dire que c'est un programme. Comme désobéir est un programme pour les femmes. Et que je crois que les hommes de cette génération, celles qu'on a interrogées, parce que c'est un spectacle assez générationnel, très clairement, ils ne veulent plus être comme leur père, ni comme leur grand-père. Et les lignes tremblent, les lignes bougent. Même s'ils ne savent pas précisément encore... ce qu'ils veulent devenir ou quel nouveau modèle, il y a un héritage dont ils ne veulent plus.
Donc il faut déconstruire, c'est un mot qui a été un peu raillé ces derniers temps, et en même temps, pour comprendre, on ne peut que construire et déconstruire. Ce serait pour déconstruire la masculinité ou la virilité ?
Alors, moi je n'ai pas cette prétention-là de penser que je déconstruis la masculinité, mais... force est de constater qu'en travaillant avec des jeunes hommes qui ont 25 ans en moyenne, les tendres dans cette équipe, je vois bien qu'ils s'interrogent énormément sur qu'est-ce qui les a forgés. Et c'est eux qui souffrent, par exemple, de cette... du poids de l'attente de leur communauté, de leur famille, de l'exigence aussi de ce qu'il faut être quand on est avec des amis, dans la relation amoureuse aussi. Et puis il y a ce mouvement MeToo quand même qui est une vraie bisectrice dans notre histoire. Et je pense que les hommes ne se pensent plus de la même façon aujourd'hui que ne pouvaient se penser il y a 100 ans.
Alors votre précédent spectacle, Julie Berès, s'appelait « Désobéir » et vous vous occupiez justement des femmes, du féminin. Est-ce que vous pensez que la construction des individus hommes et femmes est très différente aujourd'hui. Dans le spectacle, il y a un acteur qui dit « Oh, ça doit être super reposant d'être une femme ».
Oui, alors on a fait le choix.
C'est reposant.
C'est de tout repos. On a fait le choix de ne pas traiter, justement, de ne pas interroger des jeunes hommes qui seraient particulièrement, pour utiliser le mot, déconstruits, mais plutôt traiter d'une misogynie assez ordinaire qui circule, qu'on entend, qu'on connaît, et de se demander comment ça se fait qu'elle puisse nous faire rire, ou, alors que c'est très malaisant, cette phrase, par exemple, que vous venez de citer. Et pourtant, les gens rigolent, donc comme un exutoire. Mais je pense que ça, c'est presque de la provocation de leur part. C'est-à-dire qu'après, ce qu'ils nous disent souvent, c'est que ça reste quand même... l'autre tribu reste assez mystérieuse pendant longtemps. Peut-être que toute la vie, on essaye de comprendre mieux l'autre tribu, déjà de se comprendre soi-même. Mais peut-être que ces hommes qu'on a choisis, ce qui nous intéressait, c'est de voir dans quel questionnement ils sont et à quel endroit ils sont dans la contradiction et dans le paradoxe. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un spectacle militant, didactique, et on voulait surtout éviter la moralisation. Et donc c'était aussi par leurs anecdotes personnelles, par leur biographie personnelle, de se rendre compte à quel point il y en a un qui peut être très choqué par le fait, par exemple... qu'il faille encore gagner plus que sa compagne, et les six autres qui assument et revendiquent le fait de dire « théoriquement, je comprends, tu as raison, mais dans les faits, quand ma compagne ou ma nana gagne plus que moi, eh ben, je me sens dévirilisée, j'ai l'impression de ne pas porter mes couilles. » Tout de suite, c'est très visuel, c'est très imagé.
Mais vous avez l'impression que, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, que c'est plus compliqué pour un homme d'être un homme que pour une femme, ou c'est finalement le même enjeu?
Alors, je pense que ce n'est pas du tout les mêmes difficultés. Je pense que les femmes aujourd'hui, étant encore considérées un peu comme une minorité, on va dire, doivent être encore dans le combat et se battre pour obtenir... alors, même si on est dans une société d'égalité de droit, mais pour obtenir, on sait bien que voilà, dans les pratiques, que ce soit au niveau voilà, salarial, de la reconnaissance, de ce fameux plafond de verre qui est au-dessus de nous, il y a tout le temps une vigilance à avoir pour pouvoir être considéré pleinement. Et, alors que les hommes, je pense que ce qui est compliqué, et c'est peut-être très pernicieux, c'est qu'ils n'ont pas au départ la sensation d'avoir ce combat à mener. Et peut-être que les femmes doivent mentir, en tout cas on a eu cette sensation avec désobéir à leur père, leur frère, pour pouvoir trouver un espace de liberté, elles doivent dire non pour pouvoir se réinventer, elles doivent donc s'affirmer par le négatif, alors que les hommes, c'est peut-être avec eux-mêmes qu'ils ont besoin d'arrêter de se mentir pour ne pas être l'homme qu'on attend qu'ils soient, mais l'homme qu'ils ont besoin de devenir et l'homme qu'ils veulent réellement être. Donc c'est plutôt de lâcher certaines postures, j'ai l'impression, que leur chemin, c'est plus de dire « Eh bien non, je ne suis pas cet homme-là. Ma famille aimerait, la communauté à laquelle j'appartiens aimerait, la religion à laquelle j'appartiens me demande d'être cet homme-là. Mais moi, je sens que mon masculin, ma virilité ne s'exprime pas de cette façon-là. » Donc c'est peut-être d'arrêter de se mentir à soi-même et de s'autoriser son endroit de fragilité, l'aveu de ses échecs.
Et à s'autoriser à être un individu et pas voilà. Se détacher de la communauté. Oui. Julie Berès, dans La Tendresse, la bande-son est très rap, mais ici, dans De Vive Voix, on va se la jouer plus love, avec un titre un peu drague, d'Adjou, ici en duo avec Ronisia.
Tu me fais penser à moi.
Yeah, morning sunrise.
Baby girl, dans ton attitude, t'as ce truc qui me fait penser à moi. Voir comment tu anticipes, tu fais comme si tu me connaissais déjà. Ta devise, mais tu le maîtrises. T'as les codes, t'as le mode d'emploi. Dans ta façon de retenir, quand je suis là, ça me fait penser à moi. Dernier debout, yeah, yeah. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Demande, mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant de demander.
Oh. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Demande, mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant de demander.
Togo, 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 topo.
T'as la balle dans ton corps, fais ce que t'as envie. Trop parler, tu sais, j'ai pas envie. dernier debout.
Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Demande que j'ai déjà la réponse. Je fais semblant, je te demandais.
Est-ce que tu sais qu'on se ressent?
Toco, Toco dans le prochain album de Dadju, annoncé courant mai, ici en duo avec Ronisia, et c'est sur RFI. Alors, on est là dans les stéréotypes du plan drague, et pour ceux qui peuvent aller voir la vidéo et les clips de cette chanson, ils s'en apercevront tout de suite. Dans votre spectacle, Julie Berès, La Tendresse, il est aussi beaucoup question de drague, comment pécho?
Oui, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des techniques très différentes. Il y a la technique charot, hein, charotnière, donc, voilà, qui est de prendre un personnage adapté à la personne, à la femme, là, en l'occurrence, qui est en face, selon socialement qui elle est. Il y a éviter la femme, il y a l'ignorer, il y a montrer sa fragilité, montrer sa faille, il y a être timide, montrer qu'on est impressionné par elle, faire des phrases courtes quand on n'est pas bon en grammaire. Enfin, il y a un tas de techniques qui nous est transmises.
Et puis plusieurs étapes, parce qu'il y a le premier contact, et puis comment aller plus loin.
Voilà, comment mener une conversation entière, ce qu'il y a de plus dur, selon eux, selon un d'entre eux en tout cas. Réussir, pour les bourgeoises, alors ça, ils ont aussi, selon les catégories sociales, hein, donc des proies en face, c'est un vrai cours de chasse et de pêche. Hein.
Mais est-ce que vous pensez que les hommes sont pris au piège de ces stéréotypes et de ces clichés, notamment dans ce moment-là de la drague?
Alors, je pense que ce n'est pas que les hommes qui sont pris au piège, malheureusement. Je pense que le féminin est tout à fait pris au piège aussi. Hein. Le Pokémon de « je t'aime » marche énormément encore. Il faut souvent attendre des années et une grande maturité pour comprendre qu'en fait, ça n'est pas forcément essentiel. Voilà, le mot, mais c'est l'acte qui compte. Donc, je pense que dans la question de la drague, je vais dire une chose peut-être un peu délicate. Je pense qu'il y a une certaine coopération des femmes à une posture qu'on attend finalement des hommes. Alors, ces jeunes hommes m'ont beaucoup dit que c'était très compliqué pour eux aujourd'hui de savoir comment se situer, de comprendre où était la ligne rouge. Parce qu'ils prétendent, et je ne suis pas sûre qu'ils se trompent, que les femmes continuent à vouloir que les hommes soient des conquérants. Donc, à partir du moment où il y a cette question de la conquête, qui est un territoire donc, qui effectivement demande un certain nombre de techniques et de postures, eh bien, je pense que voilà, c'est une coopération. C'est quelque chose qui se fait en commun. Même si après, c'est vrai que les femmes, on est certainement très paradoxales et contradictoires, autant qu'eux, et c'est-à-dire qu'on aime nous aussi être des conquérantes. Mais alors, les hommes continuent à ne pas aimer. En tout cas, ceux que j'ai interrogés m'ont dit, mais non, mais une femme... Alors, pour un soir, oui, ça va, on peut s'amuser, mais pas pour construire... Non, mais pas pour imaginer une vie, se marier, construire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est en yinche, comme ils disent, donc c'est-à-dire qu'elle serait en désir, elle est susceptible d'être une femme, alors on peut tout de suite aller dans les injures, mais voilà, qui serait moralement questionnable. Donc, le mythe de la vierge continue à perdurer. Alors qu'à l'inverse, pour le masculin, on sait très bien que d'avoir plusieurs conquêtes est une valeur absolue, une valeur en tout cas à gagner, ajoutée, notamment dans le regard des hommes. C'est-à-dire, ce que j'ai ressenti beaucoup, c'est que la drague est importante, pas tant pour les conquêtes en elles-mêmes, mais pour être regardé dans le groupe des hommes comme étant celui qui a le plus de conquêtes. Donc c'est ce masculin qui a besoin d'être adoubé par les hommes.
Alors ce spectacle ne raconte pas une histoire en tant que telle, mais des histoires, celles des personnages. Et je vous ai entendu plusieurs fois, Julie Berès, parler de ces jeunes hommes. Mais qui écrit? Parce que ce ne sont pas du tout des amateurs, ce sont même des formidables acteurs qui sont sur le plateau du théâtre des Bouffes du Nord pour ce mois de mai. Donc, qui écrit? Qui parle? C'est l'acteur ou c'est un personnage que s'imagine l'acteur?
Non, alors, il est vrai que les 8 hommes qui sont sur le plateau sont issus de cultures, de classes sociales, de religions très différentes. Il y en a qui viennent de Picardie, du Congo, d'Arménie, de Dijon. Et ils n'ont pas du tout la même construction sociale. Donc, j'y tenais beaucoup parce que je ne voulais absolument pas qu'il y ait de stigmatisation sur la question du masculin et que je voulais que tout le monde puisse s'identifier, contrairement à Désobéir, où c'était 4 femmes issues uniquement de l'immigration, deuxième génération ou troisième génération. Et Mais ça n'est pas les acteurs qui écrivent le spectacle. J'ai la chance d'être entourée d'auteurs magnifiques qui sont Kevin Keiss, qui est également dramaturge et qui est à mes côtés pendant les répétitions. Alice Zeniter, qui est une autrice formidable, voilà, romancière, qui a écrit notamment L'Art de perdre, avec qui je travaille depuis des années et qui était aussi dans le collège avec nous pour l'écriture du précédent spectacle, Désobéir, et je suis également accompagnée de Lisa Guez. Donc tout notre travail d'écriture se fait aussi beaucoup en amont des répétitions. Donc moi, on parle d'immersion, où là, ben, on essaye le plus possible de se nourrir de textes tant philosophiques, sociologiques, politiques, pour comprendre par quel axe on va aborder notre sujet, parce que c'est abyssal, hein, le masculin. Un sociologue qui nous a beaucoup accompagnés, là, c'est Jablonka, avec Les Hommes Justes, qui traverse vraiment l'historicité du patriarcat. Et à partir de ça, on crée des réservoirs de textes. Et après, tout le travail, c'est de, d'être en porosité avec la biographie des acteurs que l'on choisit et des danseurs, parce qu'il n'y a pas que des acteurs dans La Tendresse, il y a aussi 4 danseurs. Et d'essayer de trouver du sensible, de l'intime, pour que le politique puisse se glisser dans des détails de l'intimité, dans des anecdotes, et qu'on puisse trouver à ces endroits-là du paradoxe de l'humour, surtout beaucoup d'humour.
Mais il y a un effet de réel quand même, oui, très fort, oui, dans le spectacle, et on se dit, mais on peut s'interroger, sont-ils des amateurs? Mais ils sont tellement bons qu'ils ne peuvent pas être des amateurs, même s'il y a des amateurs très bons. et on se demande si l'acteur qui est sur scène parle de lui ou pas.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment notre utopie, c'est d'essayer de tendre vers un théâtre qu'on a appelé performatif, c'est-à-dire que de donner la sensation au spectateur que tout se révèle et se construit au présent, dans l'instant qu'il est en train de partager avec le spectateur. C'est l'impression que tout vient d'eux. Donc, c'est toujours à la première personne qu'ils parlent, même quand leurs récits ne sont pas les leurs. C'est-à-dire, un des jeunes hommes nous parle de son addiction à la pornographie. Il se trouve que Nathan Bouzy n'est pas addict à la pornographie.
Des origines différentes, des corps différents, des récits particuliers, comme le personnage notamment que joue Mohamed Zediki.
Moi, je suis jamais tombé amoureux. En face d'une femme, je me sens démuni. Par exemple, récemment, j'ai demandé à une femme si je pouvais l'embrasser. Et après, on m'a dit, t'es trop con. Bah, t'as raison, il faut demander. En 2021, enfin, en 2022, c'est la technique.
Pareil qu'elle est 100% validée.
Ouais.
Mais toi, qu'est-ce que t'en sais? On t'a jamais vu avec une meuf.
Oh, tu râles.
Non, dis,
ta gueule, quoi. Tu casses tes couilles, là, ça y est.
Ça découille, toi. Et tu t'en sers ou c'est de la déco pour ton slip?
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Que j'étais un gros? Que j'ai jamais couché avec une femme, c'est ça? Ben voilà. J'ai jamais rien fait, rien. Vous êtes contents?
Extrait de La Tendresse, Julie Berès, avec ce chaud-froid toujours dans votre spectacle, avec, on l'a entendu, une vanne bien vulgaire, et puis l'émotion de la confidence ou de l'aveu.
Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y a comme ça des aveux, je pense que c'est le bon mot, qui sont partagés avec le public, et que ça a été un long travail, ça, de pouvoir créer un territoire de confiance entre nous. Parce que déjà, il y avait une méfiance au départ. Ils me disaient, mais toi, tu es féministe, donc tu vas vouloir faire dire ça aux hommes. Et puis de trouver l'endroit où finalement, ils se sentaient libérés, fiers, et ils avaient envie finalement de parler de cette chose dont ils avaient eu l'impression qu'ils devaient la cacher parce que ça leur empêchait d'être un homme, un vrai, un véritable homme. Et qu'en tout cas, ils avaient l'impression qu'ils étaient attaqués dans leur virilité à cet endroit-là.
Vous évoquiez cette scène d'un jeune homme qui raconte son addiction à la pornographie. Mais là aussi, on est vraiment dans le chaud-froid parce que l'acteur, à ce moment-là, danse, fait des pointes et des arabesques en racontant de manière très, très crue son addiction à la pornographie et commence à le... Ça l'embarrasse, ça le perturbe et ça l'empêche d'être dans la vie quotidienne, dans la relation amoureuse.
Ça l'empêche, en même temps, il dit qu'il trouve que c'est chiant autrement. Hein. Donc en même temps, il assume aussi de dire qu'il est branché comme ça et qu'il ne sait pas faire autrement, qu'il ne peut pas jouir, dit-il, normalement. Oui, c'est très cru, mais je crois pas plus que le porno ne l'est. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai que dans le travail de la langue, tout le travail qu'on fait avec les auteurs, c'est d'essayer de faire disparaître les auteurs pour qu'on ait l'impression que ce soit vraiment leur langue.
Et toujours cet effet de réel. Parlée, donc.
Voilà, de présent.
Et puis toujours l'individu et la bande omniprésentes. Et sur scène, on a l'impression d'avoir une horde presque.
C'est assez
sauvage, pardon.
Oui, c'est vrai qu'il y a une énergie extrêmement... comme ça, compétitive, et qu'on a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de s'éprouver dans leur force et dans leur virilité. Mais ça n'a pas été choisi théoriquement au départ. C'est vrai que j'étais étonnée de voir qu'à chaque fois qu'il y avait une pause, par exemple, ben, leur jeu, très souvent, c'était celui qui sautait le plus haut dans la scénographie, celui qui allait réussir à descendre le plus vite, celui qui allait réussir à courir sur la pente et faire les quatre tours sans s'arrêter. Enfin, donc, c'était des espèces de jeux, très souvent, qui questionnent quand même l'endurance. Donc, on a pas mal parlé de l'endurcissement, en fait, dans la tribu du masculin. Des rites d'endurcissement, on sait, il y en avait... de tout temps qui existait, on jetait en Angleterre les petits garçons dans la neige pour voir s'ils allaient résister. Donc, il y en a eu dans toutes les cultures et de toutes les époques. Mais c'est vrai que dans la modernité, ils sont plus peut-être discrets ou ils apparaissent plus, de façon plus pernicieuse. Mais l'endurcissement des hommes entre eux continue à être assez présent et que c'est un endroit où il ne faut pas baisser la garde. Beaucoup d'entre eux disent par exemple qu'ils n'aiment pas se battre, mais qu'au lycée, au collège, il fallait qu'ils y passent, d'apprendre à mettre un coup de poing pour ne pas être celui qui subit, pour ne pas se retrouver être non plus le faible, le fragile, celui qui va être le bouc émissaire.
Donc il y a les individus, les personnalités, les sensibilités, les fragilités, il y a la bande, et puis il y a cette époque très particulière de 2022, on est bien dans le contemporain et dans le réel, parce que être un homme ou un jeune homme en 2022 n'a finalement rien à voir, je trouve, en voyant votre spectacle, ou en voyant d'ailleurs les jeunes gens avec les années 80 ou même les années 2000.
La dernière fois, ils ont posté une photo. Il y avait juste son bras sur son épaule et j'arrête pas de les imaginer, donc.
Mais arrête de les imaginer.
C'est ça le pire. Imaginez que le corps de ton ex, il prenne du plaisir ailleurs. Tu veux dire que dans cet ailleurs-là, elle prend du plaisir. Il lui donne du plaisir.
Attends, c'est
pas... Non, mais surtout que maintenant, elles parlent de fou. Elles ont Tinder, adoptent un mec avec un caddie, quoi. Et genre, elles mettent le mec dans le caddie, quoi.
Hey, les meufs, aujourd'hui, elles sont 10 fois plus infidèles que les mecs. Et ça, je suis persuadé, je suis presque sûr. Elles sont dans un délire de vengeance historique et sociale. Et le nombre de couples que je connais, moi, j'ai plus le seul pote fidèle, c'est clair.
Ouais, je te comprends de ouf, Tyrann. Moi, quand j'ai été trompé le mec, j'avais qu'une envie de l'attraper, tu vois, de lui faire bouffer le retard dans tout le monde. Il dira là. C'est qui le papa, là? Hein? C'est qui le papa, là?
Extrait de La Tendresse, votre spectacle Julie Berès, avec cette idée qu'il y aurait une vengeance historique des femmes après des siècles de patriarcat. C'est votre avis ?
Non, moi je pense que les femmes ont toujours été infidèles comme les hommes, mais peut-être que c'est plus assumé parce qu'elles ont plus de liberté. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ma mère, elle, qui était mariée, devait, encore quand elle signait un chèque, il y avait une visibilité de mon père, de son compagnon, sur la dépense qu'elle avait faite. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, les outils sont plus égalitaires, sont plus démocratiques, que ce soit les outils pour trouver une rencontre, pour pouvoir être dragué ou partager une soirée. Je crois que le masculin et le féminin, là-dessus, sont assez semblables.
Enfin l'égalité. Quelles sont les réactions des spectateurs? Parce que j'imagine que parfois, vous organisez, alors il y a les réactions au cours du spectacle, mais que vous organisez aussi des rencontres avec les spectateurs. Est-ce que ça les bouscule aussi? Les hommes notamment.
Mais alors les hommes continuent à penser, par exemple dans cette équipe, ils ont tous dit, sauf un, qu'il n'avait jamais été trompé. Alors ça c'est formidable.
Et vous n'y croyez pas ?
Non, parce qu'eux n'arrêtent pas de dire qu'eux l'ont fait, mais leur compagne non. Elle est fidèle, elle est formidable, elle les aime.
C'est normal.
Donc, ils ont besoin de penser. On sent que c'est nécessaire dans la construction du masculin de penser que l'autre est fidèle. Je crois que là-dessus, les femmes, on est peut-être plus lucides ou on a moins cette, ce besoin. Très souvent, j'ai l'impression que le féminin, la première question, c'est plus est-ce que tu es amoureux, mais pas est-ce que tu m'as trompé, mais juste est-ce qu'il y a quelque chose d'important. Alors que les hommes, c'est vraiment cette possession par le corps qui les rend complètement fous. Enfin, c'est ça dont ils parlent. Mmh. Parce qu'en plus, là, ils parlent de tromperie, mais c'est une ancienne amoureuse. Ça n'est même plus sa femme, en fait. Ça n'est même plus sa copine. Mais ils ne supportent pas quand même l'idée du partage du corps. Donc, je crois que cette idée de la possession du corps reste assez présente. Mais je me suis un peu...
Non, la réaction des hommes, vous avez répondu.
C'est plutôt des générations, j'ai l'impression qu'il y a des réactions différentes. Mais c'est, je suis assez heureuse de ça, parce que j'ai l'impression que ça touche les générations différentes sur des points différents. J'ai l'impression que la génération, la mienne, et qui a déjà vécu, regarde ça avec le sourire et... assez en accord avec ça. Et les plus jeunes, les filles, très souvent, continuent à être très choquées de ça, qu'on puisse dire que les femmes sont infidèles. Donc, je crois que ça dépend plutôt de la génération.
Vous avez une très belle définition du théâtre, Julie Berès. Vous dites, c'est l'endroit où l'humain vient voir de l'humain pour tenter de se comprendre. Qu'avez-vous compris en faisant du théâtre et en faisant tout particulièrement ce spectacle-là? Qu'avez-vous compris aux hommes, aux femmes?
Je ne sais pas si c'est comprendre, mais en tout cas, ça m'a donné beaucoup d'espoir, qui est de voir à quel point l'humain a cette capacité de se réinventer. Et quel que soit, bien sûr, il y a un déterminisme social qu'on peut nier, mais il y a toujours des gens exemplaires qui arrivent, malgré des assignations sociales, familiales, religieuses, traditionnelles, à devenir la personne qu'ils doivent être, qu'ils veulent être. Et donc, c'est ce désir de liberté et cette capacité à réécrire son histoire et à se réinventer.
Alors, vous inventez, je trouve, Julie Berès, un théâtre énergique, en prise avec la vie, avec la société, avec et hors le texte. C'est cela, le théâtre politique des années 2020 ?
Alors, je ne sais pas, il y a plein de façons de le faire. Il y a des gens qui ont une forme de militantisme au théâtre, qui reste nécessaire. Moi, j'ai la sensation que le théâtre de la catastrophe, le théâtre qui vient nous expliquer que le libéralisme nous étouffe, que nous souffrons de l'individualisme, j'ai l'impression qu'on en souffre tellement, justement, et on le sait parfaitement, que c'est plus cet endroit où on peut donner de l'espoir et de la confiance aux spectateurs et qu'ils ressortent plutôt en se disant « je peux agir sur ma vie, je peux agir sur mon existence et chacun peut agir ». Donc c'est quand même un théâtre de la, j'ai envie de dire, spinoziste, en tout cas de l'action.
Merci Julie Berès. La tendresse, votre spectacle se joue jusqu'au 22 mai au Bouffe du Nord et reprendra en 2023. Et je parlais de spectacle énergique. Voilà la bande-son avec le rap de Koff.
Oui, mon gâté, reste comme Leonardo, bien sûr, tout raté. Sur les dans la bulle, sur le drapeau, shifter pro. Contre-sens, moi je l'ai déjà contre-sens. Tout à l'heure j'étais quand je m'étais des 50 ans d'essence. Je veux faire la guerre, par Dieu s'élever. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la guerre, c'est Marseille bébé. Ça me lance NDD, moi je suis un normal.
La tendresse jusqu'au 22 mai au Bouffe du Nord et on peut voir si l'on est à Paris votre précédent spectacle Julie Berès Désobéir à la Villette du 31 mai au 4 juin et au Théâtre du Rond-Point du 15 au 26 juin. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paragoup, programmation Louise Calédac, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.